fait des conférences, c'est-à-dire qu'il y a une conférence par mois avec un thème, et puis ensuite des ateliers débats qui se déroulent de façon hebdomadaire aussi en alternance avec les conférences, qui vont un petit peu plus dans le détail et dans la thématique de la conférence. Dans le cadre à la fois de l'instauration du grand débat national et puis des événements sociaux qu'on connaît depuis le 17 novembre, il nous a paru intéressant non pas de se mettre dans les rails, dans les clous du grand débat national, mais de faire un petit peu ce qu'on fait dans les festivals, de faire un off, de faire un débat off, en prenant une thématique qui... le programme sur ces 9 ateliers, ateliers constitutionnels que je vous propose, c'est tout simplement une étude et une analyse critique de la Constitution actuelle. L'étude et l'analyse critique, ça consiste à prendre les titres les uns après les autres de la Constitution et des 3 textes annexés à cette Constitution qui sont la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, le préambule à la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Donc ces 4 textes constituant également à titre identique constituant notre schéma institutionnel. Je me présente, donc je me suis présenté. On peut peut-être commencer à faire le tour de table comme ça, simplement donner votre prénom et puis votre situation, grosso modo, ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes ici, très rapidement, pour se connaître. C'est Hugo.
Je suis étudiant en protection et gestion de la nature, en deuxième année de BTS. Et du coup, j'estime que la réflexion doit être nécessaire au moins individuellement pour pouvoir avancer et argumenter. Quand on est en société, il faut au moins connaître les bases de nos textes, les textes qui constituent notre loi, enfin notre constitution.
Alors, vous pouvez aussi poser une question par rapport à... Vous avez une interrogation par rapport à la démarche qui vous est proposée.
Potentiellement la déconstruire pour réfléchir à une nouvelle. Et effectivement, on allait peut-être discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme constitution en remplacement.
D'accord.
Alors, je m'appelle Adèle. Dans ma vie, je suis caissière. Dans la grande distribution, je me suis intéressée parce que récemment je suis devenue militante pour la France Insoumise et petit à petit on s'intéresse à ces sujets-là. Donc c'est pour augmenter mes connaissances dans ce sujet. C'est vraiment par curiosité et je sais que je vais apprendre des choses, donc je suis très contente d'être là. Je m'appelle Julie, je vais rentrer en BTS l'année prochaine et pareil.
Moi c'est Brigitte, je suis gilet jaune. Je fais partie de personnes qui luttent parce que je suis principalement concernée, puisque je lutte contre l'État, mieux, contre le ministre de l'Intérieur. Je suis sans emploi, dans des conditions précaires. Et effectivement, comme tout le monde, je suis intéressée par tout ce qui peut bouger la société, tout ce qui peut faire en sorte que le citoyen s'approprie réellement de base, qui puissent bien les comprendre, bien les expliquer, et puis essayer de convaincre d'autres personnes à rallier le train, parce qu'on ne doit pas laisser des personnes décider pour nous, parce que quand ils décident, bah, manifestement, c'est toujours à notre détriment. Voilà.
Merci.
Christiane, je suis retraitée et je milite dans pas mal d'associations. Je suis aussi au conseil de quartier comme toi, Père Ariel, dans le Clément. Et vu la conjoncture économique actuelle, politique et tout, je suis très intéressée par votre projet.
D'accord.
Je m'appelle David, je suis responsable de rien que légumes dans une biocoop. J'ai été à politique pendant beaucoup d'années, malgré un père syndicaliste. Et j'avoue que depuis quelques années, en fait, le regard sur l'injustice globale, étatique et mondiale, a commencé à me troubler. Désormais, je souhaite savoir un peu plus et savoir surtout quels sont les moyens pour combattre.
Merci.
Je pense pas. Je suis Kento, consultante formatrice à la Métier de la Propreté. Si je suis ici aujourd'hui, c'est déjà parce que je suis gilet jaune. Et si je suis gilet jaune, c'est parce que justement, comme monsieur, en fait, ça ne me trouble pas. Moi, ça m'aurépine toute cette injustice, que ce soit au niveau national ou européen. Voilà. Et je fais partie d'un groupe dont mes deux collègues sont là.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Mélie, je suis en recherche d'emploi malgré mes 60 ans. Je souhaite rejoindre les Gilets jaunes, je vous verrai après. J'ai cherché des points de ralliement, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Moi je fais partie d'une association à connotation politique déjà qui travaille sur le RIC et sur le changement de la Constitution. Donc je suis venue ici pour me documenter, la travailler à fond, la comprendre, pour pouvoir faire comme madame, rallier d'autres personnes à notre cause, pour faire bouger les choses.
D'accord. Sans dire quelque chose, c'est quel mouvement qui travaille sur le RIC?
Comment
c'est avec quel mouvement vous travaillez sur le RIC?
Citoyens pour tous.
Citoyens pour tous?
Oui.
D'accord.
C'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années déjà, il y a 500 membres. On n'est pas très important. Hein.
D'accord. D'accord. C'est important sur la région lyonnaise, surtout.
Oui, oui,
d'accord.
Sur Lyon, sur Saint-Froid-Lyon.
Donc Audrey, je travaille pour la métropole de Lyon. Avant de parler du travail, je suis avant tout mère de famille, citoyenne, consommatrice. Aujourd'hui, force est de constater qu'on vit dans une France qui va mal. Et effectivement, on est chacun un petit peu dans notre coin. On était chacun un petit peu dans notre coin à se dire que tout allait mal. Et du coup, effectivement, quand il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, j'étais très contente que le peuple se réveille et j'ai rejoint le mouvement. On travaille donc avec un petit groupe sur le RIC, donc justement pour l'instaurer dans la Constitution.
D'accord.
Et donc pour moi ça va être très intéressant parce que je ne connais pas bien mes bases, donc pour moi ça va être bien utile d'être ici ce soir.
Bonsoir, je m'appelle Bénédicte, dans la vie je suis chargée de gestion locative adaptée dans une association qui s'occupe des personnes en très grande difficulté. Je fais du logement très très social, en marge du logement social. Voilà. Donc la pauvreté, je la côtoie au quotidien, la différence aussi. Je suis un petit peu comme monsieur de bout de table, c'est-à-dire que j'ai été... J'ai été pendant des années apolitique. Voilà, je me laissais porter par le cours. J'ai un papa un peu capitaliste, contrairement, voilà. Et j'ai épousé un fils de mineur. Oui, mais c'est dur. Hein. Bref, j'ai épousé un fils de mineur qui, lui, tous les jours disait « Ouais, c'est pas possible ». Et donc, on soutient énormément le mouvement des Gilets jaunes et on a été Gilets jaunes dès les premières heures. Et je fais partie effectivement d'un groupe depuis très peu de temps sur le RIC. L'objectif de notre venue, enfin moi en tous les cas de ma venue, c'est de pouvoir mettre en place des ateliers constituants de façon à ce qu'on puisse, voilà, et qui, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc on vient prendre de la culture.
C'est clair et on est bien dans, le cadre.
On fait partie de l'association Canon.
Canon,
c'est un Canon.
Ah oui, Canon.
C'est une association qui s'occupe de vérifier les dépenses publiques.
D'accord. Oh, c'est bien ça.
C'est lyonnais, c'est la comptabilité, les dépenses publiques de la métropole, de la région et de la ville.
D'accord.
Très bien.
Donc, cette étude de la Constitution, ça...
disons que ça rentre
dans
la réflexion.
Puisqu'on est pour les diminutions des dépenses d'habitat.
On va chercher des diminutions.
Dans la Constitution, est-ce qu'il y a des progrès, il y a des pistes, tout ça pour...
D'accord. OK. Alors, bon, très rapidement, je vais répondre à une ou deux interrogations qui ont été faites durant ce tour de table. Concernant l'analyse critique de la Constitution qui débouchait sur une réécriture de la Constitution, pourquoi pas, ce qui a été posé, c'était une série de 9 réunions dont vous avez les dates, qui sont 9 fois 2 heures, c'est pas de trop pour éplucher, pour décortiquer la Constitution et ses portes et ses annexes. Et bien entendu, moi je serais le premier d'accord et partant, en tout cas, pour compléter ce travail par un travail constructif de réécriture, compte tenu de l'analyse des effectuologiques qui aurait été faite, article après article, tout, hein, titre après titre. Une chose qu'il faut préciser, c'est que cette démarche, pour l'instant, d'analyse critique, est une démarche que je qualifierais d'apolitique, c'est-à-dire qu'elle vise à étudier les procédures. La Constitution énonce un certain nombre de principes et de procédures, et que notre travail va être de voir exactement ce qu'il recouvre, quelles sont les interactions entre les différentes parties de ce texte institutionnel, puisqu'on va s'apercevoir très rapidement, je pense que vous le savez déjà un petit peu, mais en rentrant dans le détail, on va le constater de façon plus claire, que beaucoup de choses sont liées, et que quand on veut modifier quelque chose, eh bien en fait, on s'aperçoit que ça impacte sur d'autres éléments des textes institutionnels, et que ça pose un problème si on ne modifie pas aussi autre chose. Voilà. Alors, l'exemple type, c'est le RIC. Le RIC. Alors, je me suis présenté très rapidement, mais je travaille depuis très longtemps sur les problèmes constitutionnels et également les problèmes de décroissance, où j'ai écrit 8 livres qui traitent à la fois de la décroissance et de la démocratie, l'idée étant de relier les deux. Bref, donc c'est une préoccupation et c'est un travail sur lequel je plonge depuis pas mal de temps. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un bon travail ensemble à ce niveau-là. Alors, pour ce qui concerne la... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la démarche qui est proposé avant qu'on attaque, qu'on rentre dans le vif du sujet, sur l'aspect apolitique, tout au moins pendant la première phase des travaux. Voilà. Il est évident que si on s'engage, après avoir fait l'analyse des faits théologiques, l'analyse critique radicale, sur une réécriture de la Constitution, là on va voir apparaître des idéologies. On n'écrit pas une constitution de façon neutre, de façon totalement
détaché de toute idéologie, on met forcément une idéologie dans ce qu'on écrit. C'est la raison pour laquelle je pense que la phase qui est proposée ne peut être que consensuelle, parce que c'est une phase technique, mais qu'après, effectivement, des possibilités, des impossibilités vont apparaître et qui vont peut-être cadrer les pulsions idéologiques que chacun peut avoir. Alors, ce que je voudrais dire en introduction de cette première séance, c'est que la Constitution française, et j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais préciser, est composée de 4 textes. La Constitution de 1958, proprement dite, qui a été écrite par Michel Debré et Charles de Gaulle en 1958, et qui a été proposée par référendum à l'approbation. C'est donc cette Constitution qui a été approuvée par référendum en 1958. Cette Constitution a annexé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, écrite en 1789, et donc à ce titre, la DDHC, on va dire DDHC, parce qu'on on y fera référence assez souvent, donc on va prendre quelque chose de plus rapide à dire que Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette DDHC de 1789 est telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été modifiée, elle est annexée telle qu'elle a été écrite en 1789. A été annexée également à cette occasion le préambule de la Constitution de 1946, puisque vous savez qu'après la guerre, en 1945, il y a eu la 4e République, et qui a duré jusqu'en 1958, et cette 4e République, elle avait une constitution dont les dirigeants de la 5e République ont voulu conserver le préambule qu'ils ont donc annexé à la constitution de 58. Et puis est venue s'ajouter en 2004-2005 la charte de l'environnement qui a été rédigée par qui est co-signé par Jacques Chirac et Yves Coppens, et qui traite de législation, de principes environnementaux à introduire dans la Constitution. Donc ces 4 textes font partie intégrante de la Constitution, et chaque fois qu'on va, par exemple, via le Conseil constitutionnel, dire telle disposition ne peut pas être acceptée parce qu'elle est contraire à la Constitution, bon, on va se référer aussi bien au texte de la Constitution de 1958 proprement dite que tel ou tel article de la DDHC, du préambule de 46 ou de la Charte de l'environnement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Constitution de 58 proprement dite est ce qu'on pourrait appeler un catalogue de procédures. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, elle est très très peu idéologique. On va voir qu'il y a assez peu d'idéologie dans la Constitution de 58. C'est avant tout un catalogue de procédures, et le RIC fait partie des modifications putatives qui sont réclamées par un certain nombre de mouvements depuis déjà pas mal de temps. Les 3 autres textes, par contre, c'est-à-dire la DDHC, le préambule de 46 et la Charte de l'environnement, sont eux des textes idéologiques. C'est-à-dire qu'ils affirment, ils sont censés affirmer des principes. Alors, on va en permanence être amené à parler de procédure d'une part et de principes d'autre part. Il faut voir que les 3 textes annexés sont des textes qui sont censés mettre des garde-fous idéologiques à toute disposition législative qui pourrait être prise, contrairement à la Constitution de 58 proprement dite, qui, elle, est un catalogue de procédures. Dernière chose concernant préalable que je pourrais apporter donc à cette série de réunions que nous allons avoir, c'est que ces textes qui constituent la Constitution sont la clé de voûte de tout le corpus législatif français. Alors, le corpus législatif français, en fait, la Constitution et ses trois annexes ne sont pas à proprement parler des lois. Ils sont un cadre de loi. Les lois sont contenues dans 74 codes juridiques qui sont établis par, d'une part, des lois votées en Assemblée nationale et, d'autre part, par des décrets, des arrêtés, des directives, des ordonnances, des règlements qui sont édictés par des agents de l'État. Alors, on n'a pas de chiffre précis sur le nombre de lois qu'il y a en France, mais on peut citer le chiffre de 140 000 lois. 140 000 lois réparties dans 74 codes juridiques. Alors, les codes juridiques, ben, vous les connaissez peut-être pas tous, mais les plus célèbres, c'est le Code général des impôts, le Code du travail, le Code du commerce, le Code civil, le Code pénal, le Code des sociétés, le
Code de la famille.
Le code de la famille, le code de la consommation, le code des collectivités locales, etc., 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 le code de la santé, etc., il y en a 64, de la navigation fluviale, de l'aviation civile, etc. Donc, toutes les lois sont consignées dans cette bibliothèque de codes juridiques, et ces lois sont divisées en quatre nomenclatures. Les lois, vont dire, les règlements, les arrêtés, les décrets. Et bien, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait référence à un texte législatif, on va avoir L quelque chose, ou bien D quelque chose, décret, R quelque chose, ou A quelque chose. Voilà.
Décret,
règlement, arrêté et loi. Bon. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore des règles coercitives qui ne sont pas dans les codes juridiques et qui vont s'appeler, par exemple, circulaire administrative ou bien directive, notamment les directives européennes, qui viennent encore en plus s'ajouter à ce qui est contenu dans les 74 du code juridique. Alors là, on parle du corpus législatif, mais au-dessus de ce corpus législatif, il y a cette constitution que nous allons étudier, et bien entendu, en théorie, en principe, aucune loi ne peut être votée par l'Assemblée nationale, approuvée par le Sénat, ou décrétée par un ministre, par un préfet, par un maire, sans qu'elle, enfin, si elle contrevient à une interprétation d'un des articles qui sont contenus dans les textes institutionnels. Voilà. Donc, il faut bien comprendre l'articulation lorsqu'on parle de loi, un petit peu comment ça marche. Et je terminerai en disant que, a priori, quand on dit on va faire un atelier sur la Constitution, ça paraît quelque chose d'extrêmement ingrat et extrêmement rébarbatif. Et en fait, c'est extrêmement excitant. Je pense que vous allez pouvoir tous partager la même excitation. Alors, c'est excitant parce que... c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Je vous livre mon ressenti personnel lors de mes confrontations depuis déjà 10 ans avec la juridiction. C'est excitant parce que, d'une part, ça concerne notre vie tous les jours. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Constitution, c'est pas quelque chose d'abscond, de flou, d'amphigourique, pas du tout. Ça parle de choses très concrètes. Et on va voir que ça parle de choses très concrètes. Hein. Et puis, alors c'est le premier sujet d'intérêt. Ensuite, on s'aperçoit qu'en lisant bien en détail, il y a plein de choses qui nous paraissaient bizarres, contradictoires, et qui en fait révèlent tous les dysfonctionnements que vous ressentez là, ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant.
Voilà. Alors, la question pourrait se poser, par quoi on commence? Je vous ai dit qu'il y a bon, un gros morceau, hein, c'est le catalogue des procédures, c'est la convention, la constitution de 58, comme on dit, et puis il y a les trois textes, qui sont des textes qui sont plutôt nature principielle, et on peut se demander par quoi faut commencer. Alors, on commencera, commencera par ce que vous voulez, puisqu'on est là en démocratie.